Le roman d'un enfant, chapitre 51 à 60. Le théâtre de Peau-d'Âne, très agrandi en profondeur, avec une série prolongée de portants, était maintenant monté à poste fixe chez Tante Claire. La petite Jeanne, plus intéressée depuis les nouveaux déploiements de mise en scène, venait plus souvent. Elle peignait des fonds sous mes ordres, et j'aimais ces moments-là où je reprenais sur elle toute ma supériorité. Nous possédions maintenant, dans nos réserves, de pleines boîtes de personnages ayant chacun leur nom et leur rôle, et pour les défilés fantastiques, des régiments de monstres, de bêtes, de gnomes, modelés en pâte et peints à l'aquarelle. Je me souviens de notre satisfaction, de notre enthousiasme, le jour où fut essayé le grand décor circulaire sans portant qui représentait le vide. Des petits nuages roses, éclairés par côté au jour frisant, erraient dans une étendue bleue que des voiles de gaz rendaient indécises. Et le char d'une fée aux cheveux de soie, traîné par deux papillons, s'avançait au milieu, soutenu par d'invisibles fils. Cependant, rien n'aboutissait complètement, parce que nous ne savions pas nous borner. C'était chaque fois des conceptions nouvelles, toujours de plus étonnants projets, et la répétition générale était reculée de mois en mois, jusque dans un avenir improbable. Toutes les entreprises de ma vie auront, ou ont eu déjà, le sort de cette peau d'âne. Parmi ces professeurs qui sévirent si cruellement contre moi pendant mes années de collège et qui avaient tous des surnoms, les plus terribles, sans contredit, furent le bœuf à pisse et le grand singe noir. J'espère que s'ils lisaient ceci, ils comprendraient à quel point de vue enfantin je me replace pour l'écrire. Si je les retrouvais aujourd'hui, j'irais sans nul doute à eux la main tendue, en m'excusant d'avoir été leur élève très indocile. Oh, le grand singe surtout, je le haïssais, quand du haut de sa chair il laissait tomber cette phrase. « Vous me ferez sans ligne, vous, le petit sucré là-bas !» Je lui aurais sauté à la figure comme un chat outragé. Et là, le premier éveillait en moi ces violences soudaines qui devaient faire partie de mon caractère d'homme et que rien ne laissait prévoir chez l'enfant, plutôt patient et doux que j'étais. Et cependant, il serait inexact de dire que j'ai été tout à fait un mauvais élève, inégal plutôt, à surprise. Un jour premier, dernier le lendemain, mais restant en somme dans une moyenne acceptable avec toujours, à la fin de l'année, les prix de version. Rien que cela, par exemple. Et je m'étonnais que tout le monde ne les eût pas, tant cela me semblait facile. J'avais au contraire le thème extrêmement rebelle, la narration encore davantage. Je désertais de plus en plus mon propre bureau. Et c'était chez Tante Claire, à côté de l'ours aux pralines, que je subissais avec plus de résignation la torture des devoirs. Sur le mur, dans un recoin caché de la boiserie de cette chambre, un portrait à la plume du grand singe subsiste encore, avec d'autres bons hommes de fantaisie. L'encre a pâli, jaunie, mais on les a respectés, et quand je les regarde, je retrouve encore du mortel ennui, de l'étouffement glacé, des impressions de collège, enfin. Tante Claire était plus que jamais ma ressource, par ces temps durs, cherchant toujours mes mots dans les dictionnaires et se condamnant même souvent à faire à ma place d'une écriture imitée, les pensums du grand singe. Apporte-moi, je te prie, le deuxième. Non, le troisième, tiroir de ma chiffonnière. C'est maman qui parle, s'amusant elle-même de ces tiroirs qu'elle me demande chaque jour depuis des années. Et quelquefois, pour le seul plaisir de me les demander, sans en avoir un besoin bien réel. C'était un des premiers services que j'avais su lui rendre étant tout petit. Lui apporter, suivant les cas, l'un ou l'autre de ces tiroirs en miniature. Et la tradition nous en est longtemps restée. À l'époque de ma vie où j'en suis arrivée, c'est généralement le soir que se passe cette promenade de tiroirs. À mon retour du collège, quand déjà le jour baisse, maman est assise à sa place accoutumée, causant ou brodant près de sa fenêtre, sa corbeille à ouvrage devant elle, et la chiffonnière, dont les différents compartiments lui deviennent tour à tour utiles, est située assez loin dans l'antichambre. Une chiffonnière Louis XV, bien vénérable pour avoir appartenu à nos grands-grands-mères. On y trouve de très anciennes petites boîtes peinturlurées, qui ont dû être là de tout temps, et que les doigts des aïeuls touchaient sans doute chaque jour. Il va sans dire que je connais tous les secrets de ces compartiments, maintenus dans un ordre immuable. Il y a l'étage des soies, qui sont classés dans des sacs en ruban. Il y a celui des aiguilles, celui des petites soutaches et celui des petits crochets. Et l'arrangement de ces choses est tel encore sans doute que l'avaient conçu les aïeuls dont ma mère a continué la sainte activité. Apporter ces tiroirs de chiffonnière a été une des joies, un des orgueils de ma première enfance. Et rien n'a changé dans leur organisation depuis cette époque-là. Ils m'ont inspiré de tout temps le plus tendre respect. Ils sont absolument mêlés pour moi à l'image de ma mère et à tout ce que ses mains bienfaisantes, si agiles au travail, ont fabriqué de jolies petites choses, jusque la dernière de ses broderies, qui fut un mouchoir pour moi. Vers mes 17 ans, après de terribles revers, à une époque tourmentée que ce récit n'embrassera pas, mais dont je puis bien parler puisque j'ai déjà tant de fois dans de précédents chapitres empiété sur l'avenir, il m'a fallu pendant quelques mois envisager la terreur de me séparer de cette maison familiale et de ce qu'elle contenait de si précieux. Alors, dans les moments où je me mettais à passer en revue, avec un recueillement funèbre, tous les souvenirs qui allaient m'être arrachés, une de mes cruelles angoisses était de me dire « Jamais plus je ne reverrai l'antichambre où était cette chiffonnière. Jamais plus je ne pourrai apporter à maman ses chers tiroirs. » Et sa corbeille à ouvrage toujours celle d'autrefois, que je l'ai priée de ne jamais changer, même malgré un peu d'usure. Et les différents petits bibelots qui s'y trouvent, étuis, boîtes pour les aiguilles, écrous pour tenir les broderies. L'idée que je pourrais connaître un temps où les mains bien aimées qui touchent journellement ces choses ne les toucheront jamais plus met une épouvante horrible contre laquelle je ne me sens aucun courage. Tant que je vivrai, évidemment, on conservera tout tel quel, dans une tranquillité de relique. Mais après, à qui échira cet héritage qu'on ne comprendra plus? Que deviendront ces pauvres petits riens que je chéris? Cette corbeille à ouvrage de maman et ces tiroirs de chiffonnière, c'est sans doute ce que j'abandonnerai avec le plus de mélancolie et d'inquiétude quand il faudra m'en aller de ce monde. Très puéril en vérité, et j'en suis confus. Cependant, je crois que je pleure presque en écrivant cela. Avec le tracas toujours croissant des devoirs, depuis bien des mois, je n'avais plus le temps de lire ma Bible, à peine de faire le matin ma prière. Je continuais d'aller très régulièrement au temple chaque dimanche. Du reste, nous y allions tous ensemble. Je respectais le banc de famille depuis si longtemps connu. Et cette place conservera même toujours pour moi quelque chose à part qui lui vient de ma mère. C'était là cependant, au temple, que ma foi ne cessait de recevoir les atteintes les plus redoutables, celles du froid et de l'ennui. En général, les commentaires, les raisonnements humains m'amoindrissaient toujours la Bible et l'Évangile, m'enlevaient des parcelles de leur grande poésie sombre et douce. Il était déjà très difficile de toucher à ces choses devant un petit esprit comme le mien, sans les abîmer. Le culte de chaque soir en famille ramenait seul en moi un vrai recueillement religieux, parce qu'alors les voix qui lisaient ou qui priaient m'étaient chères, et cela changeait tout. Et puis, de mes contemplations continuelles des choses de la nature, de mes méditations devant les fossiles venus des montagnes ou des falaises et entassés dans mon musée, naissait déjà, au fin fond de moi-même, un vague panthéisme inconscient. En somme, ma foi, encore très enracinée, très vivante, était couverte à présent d'un voile de sommeil qui la laissait capable de se réveiller à certaines heures, mais qui, en temps ordinaire, en annulait presque les effets. D'ailleurs, je me sentais troublée pour prier. Ma conscience restait timorée et n'était jamais tranquille quand je me mettais à genoux, à cause de mes malheureux devoirs toujours plus ou moins escamotés, à cause de mes rébellions contre le bœuf à pisse ou le grand singe, que j'étais obligée de cacher, de déguiser quelquefois jusqu'à friser le mensonge. J'avais de cuisants remords de tout cela, des instants de détresse morale. Et alors, pour y échapper, je me jetais plus qu'autrefois dans les jeux bruyants et des fous rires. À mes heures de conscience plus particulièrement troublées, n'osant pas affronter le regard de mes parents, c'était avec les bonnes que je me réfugiais, pour jouer à la paume, sauter à la corde, faire tapage. Il y avait bien 2 ou 3 ans que j'avais cessé de parler de ma vocation religieuse, et je comprenais à présent combien tout cela était fini. Impossible. Mais je n'avais rien trouvé d'autre pour mettre à la place. Et quand des étrangers demandaient à quelle carrière on me destinait, mes parents, un peu anxieux de mon avenir, ne savaient que répondre, moi encore bien moins. Cependant, mon frère, qui se préoccupait lui aussi de cet avenir indéchiffrable, émit un jour une idée. Dans une de ses lettres, qui pour moi sentait toujours les lointains pays enchantés, que le mieux serait de faire de moi un ingénieur, à cause de certaines précisions de mon esprit, de certaines facilités pour les mathématiques, qui étaient du reste une anomalie dans mon ensemble. Et après qu'on m'eut consulté et que j'eus répondu négligemment, « Je veux bien, ça m'est égal », la chose parut décidée. Cette période pendant laquelle je fus destinée à l'école polytechnique dura un peu plus d'1 an. Là ou ailleurs, qu'est-ce que cela pouvait me faire ? Quand je regardais les hommes d'un certain âge qui m'entouraient, même ceux qui occupaient les positions les plus honorables, les plus justement respectées auxquelles je pusse prétendre, et que je me disais, il faudra un jour être comme l'un d'eux, vivre utilement, posément, dans un lieu donné, dans une sphère déterminée, et puis vieillir, et ce sera tout. Alors, une désespérance sans borne me prenait. Je n'avais envie de rien de possible ni de raisonnable. J'aurais voulu plus que jamais rester un enfant. Et la pensée que les années fuyaient, qu'il faudrait bientôt, bon gré, mal gré, être un homme, demeurait pour moi angoissante. 2 jours par semaine, pendant les classes d'histoire, j'étais mêlée aux élèves des cours de marine qui portaient des ceintures rouges pour se donner des airs de matelots et qui dessinaient sur leurs cahiers des ancres ou des navires. Je ne songeais point à cette carrière-là pour moi-même. À peine 2 ou 3 fois y avais-je arrêté mon esprit, mais plutôt avec inquiétude. C'était la seule, cependant, qui put m'attirer par tout son côté de voyage et d'aventure. Mais elle m'effrayait aussi plus qu'aucun autre, à cause de ces longs exils que la foi ne m'aiderait plus à supporter comme au temps de ma vocation de missionnaire. S'en aller comme mon frère, quitter pour des années ma mère et tous ceux que j'aimais, pendant des années ne pas voir ma chère petite cour reverdir au printemps, ni les roses fleurir sur nos vieux murs. Non, je ne me sentais pas ce courage. Surtout, il me semblait établi a priori, à cause sans doute de mon genre d'éducation, qu'un tel métier si rude ne pouvait être pour moi. Et je savais très bien d'ailleurs par quelques mots prononcés en ma présence que si l'idée folle m'en venait jamais, mes parents repousseraient cela bien loin, n'y consentiraient à aucun prix. Très nostalgique à présent les impressions que me causait mon musée quand j'y montais les jeudis d'hiver, après avoir fini mes devoirs ou mes pensums, et toujours un peu tard, la lumière baissant déjà. L'échappée de vue sur les grandes plaines s'embrumant en un gris rosé extrêmement triste. Nostalgie de l'été, nostalgie du soleil et du midi, amenée par tous ces papillons du jardin de mon oncle, qui étaient rangés là sous des verres, par tous ces fossiles des montagnes, qui avaient été ramassés là-bas en compagnie des petits pérales. C'était l'avant-goût de ces regrets d'ailleurs, qui plus tard, après les longs voyages au pays chaud, devait me gâter mes retours au foyer, mes retours d'hiver. Oh, il y avait surtout le papillon citron aurore. À certains moments, j'éprouvais un amer plaisir à le fixer, pour approfondir et chercher à comprendre la mélancolie qui me venait de lui. Il était dans une vitrine du fond, ces deux nuances si fraîches et si étranges, comme celles d'une peinture de Chine, d'une robe de fée, s'avivaient l'une par l'autre, formaient un ensemble lumineux quand venait le crépuscule gris et quand déjà les autres papillons, ses voisins, paraissaient ne plus être que de vilaines petites chauves-souris noirâtres. Dès que mes yeux s'arrêtaient sur lui, j'entendais la chanson traînante, somnolente, en fausset montagnard. Ah, ah, la bonne histoire! Et puis je revoyais le porche blanchi du domaine de Bory, au milieu d'un silence de soleil et d'été. Alors un immense regret me prenait des vacances passées. Tristement, je constatais le recul où elles étaient déjà dans les temps accomplis et le lointain où se tenaient encore les vacances à venir. Puis d'autres sentiments inexpressibles m'arrivaient aussi, sortis toujours des mêmes insondables dessous et complétant un bien étrange ensemble. Ce rapprochement du papillon, de la chanson et de Bory continua longtemps de me causer des tristesses que tout ce que j'ai essayé de dire n'explique pas suffisamment. Cela dura jusqu'à l'époque où un grand vent d'orage passa sur ma vie, emportant la plupart de ces petites choses d'enfance. Quelquefois, en présence du papillon, dans le calme gris des soirs d'hiver, j'allais jusqu'à chanter moi-même le petit refrain plaintif de la bonne histoire, en me faisant la voix très flûtée qu'il fallait. Alors le porche de Bory m'apparaissait plus nettement encore, lumineux et désolé, par un midi de septembre. C'était un peu comme l'association qui s'est faite plus tard dans ma tête entre les chants en fossés plaintifs des Arabes et les blancheurs de leurs mosquées, les sueurs d'eau chaude de leurs portiques. Il existe encore, ce papillon, dans tout l'éclat de ces deux nuances bizarres, momifié sous sa vitre, aussi frais qu'autrefois. Et il est resté pour moi une sorte de gris-gris auquel je tiens beaucoup. Ces petits de Saint-Hermengarde, que j'ai perdu de vue depuis des années et qui sont maintenant attachés d'ambassade quelque part en Orient, s'ils lisent ceci, seront bien étonnés sans doute d'apprendre quel prix les circonstances ont donné à leur cadeau. De ces hivers empoisonnés maintenant par la vie de collège, l'événement capital était toujours la fête des étrennes. Dès la fin de novembre, nous avions coutume, ma sœur, Lucette et moi, d'afficher chacun la liste des choses qui nous faisaient envie. Dans nos deux familles, tout le monde nous préparait des surprises. Et le mystère qui entourait ces cadeaux était mon grand amusement des derniers jours de l'année. Entre parents, grand-mères et tantes, commençaient pour m'intriguer davantage de continuelles conversations à mots couverts, des chuchotements qu'on faisait mine d'étouffer dès que je paraissais. Entre Lucette et moi, cela devenait même un vrai jeu de devinettes, comme pour les mots à double sens. On avait le droit de se poser certaines questions déterminées. Par exemple, la très saugrenue que voici. Ça a-t-il des poils de bête? Et les réponses étaient dans ce genre. Ce que ton père te donne, un nécessaire de toilette en pot, on a eu, mais n'en a plus. Cependant, à quelques parties de l'intérieur, les brosses, on a cru devoir en ajouter des postiches. Ce que ta maman te donne, une fourrure avec un manchon, en a quelques-uns encore. Ce que ta tante te donne, une lampe, aide à mieux voir ceux qu'ont les bêtes sur le dos. Mais attends, oui, je crois bien que ça n'en a pas soi-même. Par les crépuscules de décembre, entre chien et loup, quand on était assis sur le petit tabouret bas, devant les feux de bois de chêne, on poursuivait la série de ces questions de jour en jour plus palpitantes, jusqu'au 31, jusqu'au grand soir des mystères dévoilés. Ce soir-là, les cadeaux des deux familles, enveloppés, ficelés, étiquetés, étaient réunis sur des tables, dans une salle dont l'entrée nous avait été interdite, à Lucette et à moi, depuis la veille. À 8 heures, on ouvrait les portes et tout le monde pénétrait en cortège. Les aïeuls, les premières, chacun venant chercher son lot dans ce fouillis de paquets blancs attachés de faveur. Pour moi, Entrer là était un moment de joie tel que jusqu'à 12 ou 13 ans, je n'ai jamais pu me tenir de faire des sauts de cabri en manière de salut avant de franchir le seuil. On faisait ensuite un souper de 11 heures, et quand la pendule de la salle à manger sonnait minuit, tranquillement, de son même timbre impassible, on se séparait, aux premières minutes d'une de ces années d'autrefois, enfouie à présent sous la cendre de tant d'autres. Je me couchais ce soir-là avec toutes mes étrennes dans ma chambre auprès de moi, gardant même sur mon lit les préférées. Je m'éveillais ensuite de meilleure heure que de coutume pour les revoir. Elles enchantaient ce matin d'hiver, premier de l'année nouvelle. Une fois, il y eut dans le nombre un grand livre à images, traitant du monde antédiluvien. Les fossiles avaient commencé de m'initier au mystère des créations détruites. Je connaissais déjà plusieurs de ces sombres bêtes qui, au temps géologique, ébranlaient les forêts primitives de leurs balours. Depuis longtemps, je m'inquiétais d'elles, et je les retrouvais là, toutes, dans leur milieu, sous leur ciel de plomb, parmi leurs hautes fougères. Le monde antédiluvien qui déjà hantait mon imagination devint un de mes plus habituels sujets de rêve. Souvent, en y concentrant toute mon attention, j'essayais de me représenter quelques monstrueux paysages d'alors, toujours par les mêmes crépuscules sinistres, avec des lointains pleins de ténèbres. Puis quand l'image ainsi créée arrivait tout à fait au point comme une vision véritable, il s'en dégageait pour moi une tristesse sans nom, qui en était comme l'âme exhalée. Et aussitôt c'était fini, cela s'évanouissait. Bientôt aussi un nouveau décor de peau d'âne s'ébaucha, qui représentait un site de la période du Lias. C'était dans une demi-obscurité, sous d'accablantes nuées, un morne marécage, où parmi des prêles et des fougères remuaient lentement des bêtes disparues. Du reste, peau d'âne commençait à ne plus être peau d'âne. Je renonçais peu à peu aux personnages qui me choquaient maintenant par leur inadmissible attitude de poupée. Ils dormaient déjà, les pauvres petits, relégués dans ces boîtes d'où sans doute on ne les exhumera jamais. Mes nouveaux décors n'avaient plus rien de commun avec la pièce. Des dessous de forêts vierges, des jardins exotiques, des palais d'Orient nacrés et dorés. Tous mes rêves, enfin, que j'essayais de réaliser, là, avec mes petits moyens d'alors, en attendant mieux, en attendant l'improbable mieux de l'avenir. Cependant, après ce pénible hiver passé sous la coupe du bœuf à pisse et du grand singe, le printemps revint encore, très troublant toujours pour les écoliers, qui ont des envies de courir, qui ne tiennent plus en place, que les premiers jours tiennent, mettent hors d'eux-mêmes. Les rosiers poussaient partout sur nos vieux murs. Ma chère petite cour devenait de nouveau bien tentante au soleil de mars, et je m'y attardais longuement à regarder s'éveiller les insectes et voler les premiers papillons, les premières mouches. Peau d'âne même en était négligée. On ne venait plus me conduire au collège ni m'y chercher. J'avais obtenu la suppression de cet usage, qui me rendait ridicule aux yeux de mes pareils. Et souvent, pour m'en revenir, je faisais un léger détour par les remparts tranquilles, d'où l'on voyait les villages et un peu des lointains de la campagne. Je travaillais avec moins de zèle que jamais, ce printemps-là. Le beau temps qu'il faisait dehors me mettait la tête en l'envers. Et une des parties où j'étais le plus nul était assurément la narration française. Je rendais généralement le simple canevas sans avoir trouvé la moindre broderie pour l'orner. Dans la classe, il y en avait un qui était l'aigle du genre et dont on lisait toujours à haute voix les élucubrations. Oh, tout ce qui glissait là-dedans de jolies choses! Il est devenu, dans un village de manufacture, le plus prosaïque des petits huissiers. Un jour que le sujet proposé était un naufrage, il avait trouvé des accents d'un lyrisme. Et j'avais donné, moi, une feuille blanche avec le titre et ma signature. Non, je ne pouvais pas me décider à développer les sujets du grand singe. Une espèce de pudeur instinctive m'empêchait d'écrire les banalités courantes. Et quant à mettre des choses de mon cru, l'idée qu'elles seraient lues épluchée par ce croque-mitaine, m'arrêtait net. Cependant, j'aimais déjà écrire, mais pour moi tout seul, par exemple, et en m'entourant d'un mystère inviolable. Pas dans le bureau de ma chambre, que souillaient mes livres et mes cahiers de collège, mais dans le très petit bureau ancien qui faisait partie du mobilier de mon musée. Existait déjà quelque chose de bizarre qui représentait mon journal intime, première manière. Cela avait des aspects de grimoire de fée ou de manuscrit d'Assyrie. Une bande de papier sans fin s'enroulait sur un roseau. En tête, deux espèces de sphinx d'Égypte. À l'encre rouge, une étoile kabbalistique. Et puis cela commençait tout en longueur comme le papier, et écrit en une cryptographie de mon invention. Un an plus tard seulement, à cause des lenteurs que ces caractères entraînaient, cela devint un cahier d'écriture ordinaire. Mais je continuais de le tenir caché, enfermé sous clé comme une œuvre criminelle. J'y inscrivais moins les événements de ma petite existence tranquille que mes impressions incohérentes, mes tristesses des soirs, mes regrets des étés passés et mes rêves de lointains pays. J'avais déjà ce besoin de noter, de fixer des images fugitives, de lutter contre la fragilité des choses et de moi-même, qui m'a fait poursuivre ainsi ce journal jusqu'à ces dernières années. Mais en ce temps-là, l'idée que quelqu'un pourrait un jour y jeter les yeux m'était insupportable, à tel point que si je partais pour quelques petits voyages dans l'île ou ailleurs, j'avais soin de le cacheter et d'écrire solennellement sur l'enveloppe. C'est ma dernière volonté que l'on brûle ce cahier sans le lire. Mon Dieu, j'ai bien changé depuis cette époque. Mais ce serait beaucoup sortir du cadre de ce récit d'enfance que de compter par quel hasard et par quel revirement dans ma manière j'en suis venue à chanter mon mal et à le crier aux passants quelconques pour appeler à moi la sympathie des inconnus les plus lointains. Et appeler avec plus d'angoisse à mesure que je pressens davantage la finale poussière. Et qui sait, en avançant dans la vie, j'en viendrai peut-être à écrire d'encore plus intimes choses qu'à présent on ne m'arracherait pas. Et cela, pour essayer de prolonger au-delà de ma propre durée tout ce que j'ai été, tout ce que j'ai pleuré, tout ce que j'ai aimé. Ce même printemps-là, il y eut un retour du père de la petite Jeanne qui me frappa beaucoup. Depuis quelques jours, sa maison était sans dessus-dessous, dans les préparatifs et la joie de cette arrivée prochaine. Et la frégate qu'il commandait était rentrée dans le port un peu plus tôt qu'on avait supposé. Je le vis de ma fenêtre un beau soir, qui revenait chez lui, seul, se hâtant dans la rue pour surprendre son monde. Il arrivait de je ne sais quelle colonie éloignée après 2 ou 3 ans d'absence, et il me parut qu'il n'avait pas changé d'aspect. On rentrait donc au foyer tout de même. Et finissaient donc ces années d'exil, qui aujourd'hui du reste me faisaient déjà l'effet d'être moins longue qu'autrefois. Mon frère lui aussi, à l'automne prochain, allait nous revenir. Ce serait bientôt comme s'il ne nous avait jamais quittés. Et quelle joie sans doute que ces retours! Et quel prestige environnait ceux qui arrivaient de si loin. Le lendemain, chez Jeanne, dans sa cour, je regardais déballer d'énormes caisses en bois des pays étrangers. Quelques-unes étaient recouvertes de toiles goudronnées, débris de voiles sans doute, qui sentaient la bonne odeur des navires et de la mer. 2 matelots à large col bleu s'empressaient à déclouer, à découdre, et il retirait de là-dedans des objets d'apparence inconnue qui avaient des senteurs de colonies, des nattes, des gargoulettes, des potiches, même des cocos et d'autres fruits de là-bas. Le vieux grand-père de Jeanne, ancien marin lui aussi, était à côté de moi, surveillant du coin de l'œil ce déballage. Et tout à coup, d'entre des planches que l'on séparait à coups de masse, nous vîmes s'échapper de vilaines petites bêtes brunes, empressées, sur lesquels les 2 matelots sautèrent à pieds joints pour les tuer. « Des cancres là, n'est-ce pas, commandant ? » demandai-je au grand-père. « Comment, tu connais ça, toi, petit terrien ?» me répondit-il en riant. À vrai dire, je n'en avais jamais vu. Mais des oncles à moi, qui avaient habité dans leur compagnie, m'en avaient beaucoup parlé. Et j'étais ravie de faire une première connaissance avec ces bêtes qui sont spéciales aux pays chauds et aux navires. Le printemps, le printemps. Sur les murs de ma cour, les rosiers blancs étaient fleuris. Les jasmins étaient fleuris. Les chèvrefeuilles retombaient en longues guirlandes délicieusement odorantes. Je recommençais à vivre du matin au soir, dans l'intimité des plantes et des vieilles pierres, écoutant le jet d'eau bruire à l'ombre du grand prunier, examinant les graminées et les mousses des bois égarées sur les bords de mon bassin. Et du côté ardent où donnait tout le jour le soleil, comptant les boutons des cactus. Les départs du mercredi soir pour la Limoise étaient aussi recommencés. Et j'en rêvais, cela va sans dire, d'une semaine à l'autre, au grand détriment des leçons et des devoirs.